Bienvenue sur Inter, bonjour à tous, nous sommes le mardi 5 avril. Anaïs Feugas, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, 35 diplomates russes, persona non grata en France, l'ambassadeur convoqué au Quai d'Orsay. Les images de massacres dans la région de Kiev provoquent des remous en Europe dans les chancelleries. On voit ça, Anaïs, après les autres titres.
Et la guerre en Ukraine, et nous serons aussi à l'hôpital de Zaporijja où sont soignés les enfants blessés à Mariupol, la plupart par des éclats d'obus. Quel avenir pour EDF? Le groupe publie ses résultats aujourd'hui. Le gouvernement envisage sa nationalisation partielle. Et puis des billets de foot trop chers. Le mondial au Qatar ne fait plus rêver.
Et nos invités ce matin, Léa, à 7h50 avec vous.
Oui, deux acteurs hyper talentueux, singuliers et allumés. Ils excellent dans En même temps, la nouvelle comédie de Benoît Delépine et Gustave Kervern, où ils jouent collés l'un à l'autre les trois quarts du film. C'est très drôle. On est content de recevoir Jonathan Cohen et Vincent Macaigne à 7h50.
À tout à l'heure, Léa. À 8h20, c'est la suite de notre série de 12 grands entretiens avec les 12 candidats à l'élection présidentielle. Ce matin, c'est la candidate du Rassemblement national, Marine Le Pen. Amis auditeurs, vous le savez, vous avez largement la parole dans ces interviews. Alors j'attends vos questions. Le standard aussi, il est ouvert. 01 45 24 7000.
La guerre terrifiante sur le sol ukrainien est désormais jusque dans le velours des chancelleries. Face au massacre dévoilé jour après jour, encore hier soir à Boutcha, la découverte des corps de 5 hommes avec les mains liées dans la cave d'un sanatorium pour enfants, les Européens décident de chasser les diplomates russes. 40 expulsés d'Allemagne hier. La France convoque aujourd'hui l'ambassadeur de Russie au Quai d'Orsay et s'apprête à en faire de même, Jean-Sébastien Soldaini.
35 agents priés de partir, du personnel russe sous statut diplomatique. La formule pour les désigner est volontairement vague, mais Anne-Claire Legendre, porte-parole du Quai d'Orsay, l'assure, ce ne sont pas les massacres de Boutcha qui provoquent leur expulsion.
Ce qu'on décrit, c'est que nous estimons aujourd'hui que leurs activités sont contraires à nos intérêts de sécurité et de notre première responsabilité qui est d'assurer la sécurité des Français et des Européens.
Les ambassades regorgent d'agents de sécurité, des agents de renseignement. C'est peut-être là l'explication un peu plus assumée par nos voisins allemands. Ils expulsent aussi une quarantaine de diplomates vers Moscou qui constituent, disent-ils, une menace pour ceux qui cherchent une protection outre-Rhin. En clair, les 300 000 réfugiés ukrainiens se trouvant en Allemagne, sont à la merci d'espions russes. Espionnage, le mot est clairement assumé par les Pays-Bas ou la Belgique, déjà auteurs de mesures similaires. Quant à la Lituanie, elle ose aller plus loin. Depuis hier, c'est l'ambassadeur russe à Vilnius qui est déclaré persona non grata.
Les Européens qui discutent par ailleurs en urgence de nouvelles sanctions contre Moscou. La présidente du Parlement européen demande des embargos contraignants sur les hydrocarbures russes. Le secrétaire d'État américain sera à Bruxelles demain. Les États-Unis viennent aussi d'approuver la vente à la Bulgarie de 8 avions de combat F-16. Aujourd'hui, le président ukrainien s'exprimera devant le Conseil de sécurité de l'ONU, où la Russie y a un siège permanent, sans doute pour témoigner des horreurs subies par les civils. Depuis le début de la guerre, 140 enfants sont morts, près de 400 blessés selon les autorités ukrainiennes, la plupart par des éclats d'obus. Nos envoyés spéciaux, Marie-Pierre Véraud et Arthur Gerbeau, se sont rendus dans l'hôpital de Zaporijja qui accueille les enfants blessés à Mariupol.
Elle est plus blanche que les draps de son lit. Son petit corps frêle, ses grands yeux bleus nous fixent sans nous voir. Paulina a 12 ans. Elle est arrivée dans la nuit à l'hôpital pour enfants de Zaporijja. Elle vient de l'enfer de Mariupol. Un obus a éclaté juste à côté d'elle. Elle a reçu des éclats dans tout le corps. Le docteur Volodymyr Alexandrovitch nous montre ses radios.
Donc là, on peut voir des éclats sur la poitrine, dans sa cuisse et dans son genou.
Il fait jour dehors, mais elle ne le sait pas. Des sacs de sable obstruent les fenêtres. Dans le lit de métal, juste à côté du sien, un tout petit garçon de 4 ans, un bandage autour de la tête, notamment.
Il présente des blessures d'éclat au ventre avec de fortes pénétrations dans les intestins. Il est arrivé de Mariupol, ils mettent beaucoup de temps pour parvenir jusqu'ici. On ne les laisse pas passer au checkpoint.
40 ans de chirurgie pédiatrique, mais ce que le docteur Alexandrovitch a vécu ces dernières semaines ont comme brisé son âme. Il se souvient encore de cette adolescente.
Une fille de 15 ans, quand elle est arrivée ici, elle était dans une grande détresse psychologique. Elle a vu sa jambe être arrachée de son corps et elle voyait sa jambe à côté d'elle. Et sur place, on a juste arrêté l'hémorragie et on l'a ramenée ici.
Il s'excuse de son mauvais ukrainien. « Je viens de Kharkiv, dit-il, on y parle russe, mais c'est fini. J'ai trop de haine, je ne veux plus jamais parler dans cette langue. » Zaporijja, Arthur Gerbault, Marie-Pierre Véraud, France Inter.
Les frappes aériennes russes ne devraient pas faiblir sur l'Ukraine, même si l'offensive se recentre sur l'est du pays, à Lugansk. On voit arriver des soldats russes, du carburant et on s'attend à une attaque massive. À Mariupol, une équipe de la Croix-Rouge est retenue par la police dans une zone sous contrôle russe. Elle était en train de travailler sur l'évacuation des 130 000 civils. Pour l'instant, plus de 4 millions d'Ukrainiens ont quitté leur pays, à 90% des femmes, des enfants. Plus de la moitié d'entre eux se sont réfugiés en Pologne ou à Varsovie. La population a augmenté de 17%, mais les déplacés ne sont pas accueillis dans des camps de réfugiés. Ils ont trouvé refuge dans des hôtels, des bureaux ou chez des particuliers. Le reportage de Julie Pietri.
En quelques semaines, l'accueil s'est organisé très efficacement, quartier par quartier, explique le porte-parole de l'arrondissement de Shrud-Emietche, Pavel Sietleski.
C'est une situation sans précédent. Il y a 300 000 personnes actuellement à Varsovie et 500 000 ont transité par ici. On essaie de les aider comme on peut, mais en fait, la plupart des réfugiés qui arrivent à Varsovie sont hébergés chez des particuliers.
Près d'un million d'Ukrainiens vivaient en Pologne avant le début de la guerre. Beaucoup ont reçu des proches, mais les Polonais ont aussi ouvert leurs portes. Depuis une semaine, Christina, 20 ans, originaire de Kiev, dort sur le canapé de Gosia, au cœur de Varsovie.
Je suis très reconnaissante. Les Polonais sont incroyables. Ils aident beaucoup.
Avant Christina, Gosia avait déjà accueilli des réfugiés. Ils voulaient me payer. J'ai dit non, parce que moi je suis bénie, j'ai un bon travail, j'ai mon mari. Alors qu'elle était seule, sans aucun rêve. Est-elle prête à continuer ainsi sur la durée ? Aussi longtemps que possible, dit-elle. À Varsovie, l'accueil des habitants est tel qu'il reste encore de la place dans les hébergements d'urgence.
Julie Pietri à Varsovie avec Olivia Branger à la technique.
Il est 7h07, c'est un sujet peu commenté dans la campagne, l'avenir d'EDF.
L'entreprise publie ses résultats ce matin. Détenue à 84% par l'État, le candidat Emmanuel Macron souhaite sa nationalisation, en tout cas pour les activités nucléaires, comme le propose le projet gouvernemental Hercule, qui prévoit aussi la privatisation du renouvelable et du transport de l'électricité. Le gouvernement, Laurent Kramer, présente cette nationalisation comme incontournable.
EDF n'a pas les moyens de construire seul de nouvelles centrales nucléaires. Si une nationalisation soulève de nombreuses questions pour les salariés, ce cadre d'EDF le reconnaît. Nationaliser est la dernière option pour permettre à EDF de retrouver de l'autonomie financière et de lever de la dette sur les marchés financiers sans la garantie de l'État. Le poids des investissements à réaliser ces 30 prochaines années est difficilement soutenable, souligne Nicolas Goldberg, spécialiste du secteur de l'énergie.
EDF n'est pas une entité si endettée que ça, hein, quand vous regardez par rapport à d'autres groupes comme Altice, comme Bouygues ou autres. Par contre, ce qui est colossal, c'est tous les investissements qu'on doit faire dans notre parc de production si on veut le renouveler. Si vous regardez les scénarios de RTE pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, on parle de 60 à 80 milliards d'euros à réinvestir dans le système électrique chaque année.
Au-delà du mur de l'investissement nécessaire pour relancer la machine, nationalisée, EDF ne coûterait en réalité que 6 à 8 milliards d'euros à l'État. La souveraineté énergétique à un prix de l'électricité accessible pour les prochaines années passe par une nationalisation, certes, mais de toute l'entreprise, soulignent les syndicats. Un démantèlement du renouvelable ou des réseaux de distribution de l'énergie ne serait pas acceptable.
La campagne côté terrain, c'est un Jean-Luc Mélenchon démultiplié. Dernier grand meeting de campagne ce soir à Lille et des hologrammes simultanés cette fois dans 11 villes à moins de 250 km de chaque Français, se félicitent les insoumis. Lui aussi trouve qu'il y a, je cite, quelque chose en train de se passé dans ce pays, un désir de fête. Jean Lassalle en meeting hier soir à Toulouse, accueilli comme une rockstar par de nombreux jeunes. Comme toujours, dit-il, ce sont les jeunes qui trouvent la clé d'une campagne où on parle de tout sauf de leurs problèmes.
Et il est 7h10, véritable surprise Anaïs à la cour d'assises de l'Ain.
Le seul accusé du meurtre sanglant de la postière de Montréal, Lacluse, a été acquitté hier soir au bénéfice du doute après 5 heures de délibéré. Il a quitté la prison dans la nuit vers 1h du matin. Le procureur avait requis 30 ans de réclusion contre lui. Les parties civiles sont KO debout. Pas de coupable depuis le non-lieu contre l'acteur Gérald Thomassin après sa disparition. C'est la fin de la première instance, a dit la présidente. présidente de la Cour. Eux sont jugés en appel aujourd'hui aux assises du Val-de-Marne. Deux anciens policiers condamnés en première instance à 7 ans de détention pour le viol d'une touriste canadienne au sein du célèbre 36 quai des Orfèvres à Paris. Les deux accusés contestent les faits et ont fait appel à Ariane Grissel.
Le 22 avril 2014, cette touriste canadienne rencontre les deux policiers dans un pub. Il lui propose de venir visiter le 36 quai des Orfèvres juste à côté. Vers 2h du matin, la jeune femme ressort du siège de la police judiciaire en larmes et explique avoir été violée, selon plusieurs témoins. Les accusés, eux, affirment qu'il s'agissait d'une relation consentie. Dans son verdict en première instance, la Cour d'assises de Paris qualifie leur déclaration d'évolutive et fantaisiste face à une plaignante qui, dit la Cour, ne varie jamais dans son récit. Pascal Garbarini est l'avocat de l'un des policiers.
En effet, la Cour a relevé cet argument qui est assez simple, voire simpliste, puisque de toute façon, la plaignante n'a donné aucune indication concernant les accusations qu'elle portait. Dans ces conditions, il n'était pas compliqué pour elle de maintenir toujours la même version.
En première instance, la Cour d'assises dit également s'appuyer sur des éléments scientifiques et techniques, tels que des traces ADN, des faits objectifs pour Mario-Pierre Stasi, avocat de la jeune femme.
L'alcoolisation forcée dans les locaux, des suppressions de SMS qu'on a retrouvées par ailleurs. Il n'y a aucun élément qui vient soutenir la thèse présentée par les accusés qui ont d'abord nié toute relation sexuelle avant que les éléments objectifs du dossier viennent contredire ces versions totalement mensongères et fantaisistes.
Le verdict est attendu le 22 avril. Les accusés encourent jusqu'à 20 ans de réclusion.
15 cas de salmonellose suspects recensés en France chez des enfants, pour certains hospitalisés mais qui sont rentrés chez eux. Ils auraient consommé des produits Kinder. Le géant italien Ferrero a rappelé hier des centaines de tonnes de chocolat, précision tout à l'heure à 8h. Allez, c'est le jour J pour la billetterie du mondial de foot au Qatar. Elle ouvre à 11h, des billets qui permettent de suivre une seule équipe jusqu'au bout. Mais ces tickets vont-ils trouver preneur? Pas si sûr, ce mondial ne fait pas rêver les fans. Comme le dit Anne Coste, la vice-présidente des Irrésistibles français, elle estime qu'il y aura 4 fois moins de fans en Qatar qu'en Russie.
Cette année, ce n'est pas vraiment l'enthousiasme qui domine. Il y a beaucoup d'interrogations. Si quelqu'un veut suivre la France jusqu'au bout, hein, on va dire qu'on est optimiste, ça coûte à peu près 1300 euros, ce qui est plus cher que pour la Coupe du Monde en Russie, à peu près 30% plus cher. Sur la partie hébergement, donc ils nous ont annoncé 130 000 chambres. Il y a 4 matchs par jour, donc ça fait au minimum 160 000 places vendues pour 130 000 chambres. C'est quand même limité. Acheter 1300 euros de billets sans savoir si on va pouvoir dormir quelque part, c'est quand même... Après, une des solutions qui est annoncée, c'est de loger à Dubaï, par exemple. Mais les vols Dubaï-Qatar sont hors de prix, 300 ou 400 euros le vol, alors que sachant qu'il y a 7 matchs. Donc, il y a énormément de questions et très très peu de réponses.
Anne Coste des Irrésistibles français, la principale association de supporters des Bleus. Elle était au micro d'Emma Sarango, fan, c'est aussi un budget.
Hein. Oui, merci Anaïs Feuga. Dans 3 minutes, le feuilleton de la France aujourd'hui, épisode 16. Travailler la terre qui se réchauffe.